Bonjour à tous et bienvenue sur Fréquence Mistral pour un nouveau numéro de 100% foot. On va évoquer toute l'actualité de Aubagne Herbel et de l'Olympique de Marseille. Voilà, je suis en compagnie de mes acolytes qui sont là chaque semaine, Franck et Patrick. Bonjour messieurs.
Salut.
Bonjour Thierry, bonjour à toutes et à tous.
Voilà, donc un programme copieux et chargé avec cette semaine le championnat Arkema Premier League donc, qui faisait relâche, donc pas d'OM féminine, mais en revanche du national, 23e journée et 24e journée de Ligue 1 avec l'Olympique de Marseille qui jouait face à l'Olympique Lyonnais, le derby, l'Olympico. Voilà, on va attaquer de suite avec le national et une nouvelle défaite pour les joueurs de Gabriel Santos, le Stade qui s'est incliné sur la pelouse de Versailles, Franck.
Et oui, 3-0, une défaite très lourde, c'est le moins que l'on puisse dire, à souligner que sur les 5 derniers matchs, il y a eu 4 défaites et ça commence un peu à devenir laborieux sur cette mi-saison, presque le troisième tiers. Nous allons aborder, en espérant qu'ils vont se remettre de cela très rapidement sur leur prochaine journée, qui est vendredi 6 mars, c'est bien ça. Et donc là, dans quelques jours, le SCAB ira à Fleury. À ce moment-là, j'espère qu'ils se referont la cerise.
Oui.
Non, le match aura lieu à domicile. Hein.
Ah oui, autant pour moi. Ouais, c'est le SCAB qui
reçoit stade de l'Âtre,
Fleury.
Ouais.
C'est autant pour moi, oui, c'est absolument le cas. Ouais. Tu as raison, Thierry.
Signaler quand même que Fleury, c'est une bonne équipe. Ouais. Le SCAB avait perdu là-bas. Et par contre, pour avoir regardé le match sur nos collègues de BFM, l'équipe, depuis quelques semaines, effectivement, comme tu disais, Franck, elle est en grosse difficulté. Parce que là, ils se sont fait... le dernier match, ils avaient perdu 1-0. Ils sont malheureux, ils auraient pu égaliser et tout. Là, ils ont très peu d'occasions et ils se font bouffer entièrement, quoi. C'est grave, quoi.
Alors, il est à noter que sur ce match-là, ils ont eu une première période où ils ont quand même créé de belles situations de jeu, mais en seconde période, ils se sont effondrés totalement.
Ah, ouais. Il y avait 1-0 à la mi-temps
hein,
pour les joueurs versaillais, donc rien n'était perdu pour le SCAB. Mais bon, malheureusement, ils se sont effondrés, ils ont encaissé deux nouveaux buts et en seconde période, ce qui a porté le score à 3-0. Donc, lourde défaite. Et c'est vrai que ces derniers temps, c'est un début d'année 2026 très compliqué. Après une belle première partie de saison pour cette équipe aubagnaise.
Où on était souvent triomphant à l'extérieur, et là, la chose est plus qu'aisée, nous n'y arrivons plus. Et pourtant, en jouant sur une pelouse de qualité, là-bas, à Versailles, ils n'ont pas réussi, justement. C'était un petit peu le souci majeur du stade de l'Âtre, qu'il est toujours. Mais bon, j'espère qu'ils, justement, à domicile, vendredi, ils feront la différence et gagner cette fois.
Oui, parce que là, tu traverses une période compliquée. Et moi, ce qui m'a le plus impressionné en regardant le match, c'est qu'en première mi-temps, ça va, tu tiens. Tu n'as plus ce que tu avais à l'extérieur souvent, c'est-à-dire un certain réalisme qui te permet sur deux contres de mettre un but. Quoi.
Absolument.
Voilà. Là, tu as été un peu maladroit. Puis en deuxième mi-temps, tu n'existes pas. Tu en prends un ou deux de plus, il n'y a rien à dire. Quoi. Tu t'es fait bouffer par Versailles, qui n'est pas une... qui n'est pas un des deux ou trois gros du championnat. Ce n'est pas Sochaux
absolument,
ou Rouen qui sont les, les équipes qui jouent la montée. Quoi.
Assez décevant. Ouais.
Mais cette équipe francilienne de Versailles, elle est quand même, elle était cinquième avant de recevoir cette équipe aubagnaise. Donc c'est quand même, ça reste une des bonnes équipes de ce championnat de national.
Oui, mais ce n'est pas un ancien pro comme Sochaux, Dijon, Rouen, qui sont les équipes qui jouent la montée, qui ont des équipes beaucoup plus expérimentées, y compris les entraîneurs. Quoi.
Voilà, il s'agissait d'une équipe à notre niveau.
Une équipe que tu aurais pu accrocher. Quoi. Enfin, espérons que le SCAB retrouve son niveau et se réveille un peu en deuxième fin de saison et termine tranquille au milieu de tableau. Quoi.
C'est plus que souhaitable.
Oui, parce que là, la prochaine journée, donc, ça sera la réception de Fleury, comme vous l'avez dit, vendredi soir au stade de l'Âtre. Et ensuite, il y aura un déplacement à Dijon et la réception de Sochaux.
Ouais.
Donc, les trois prochains matchs, assez compliqués pour ces joueurs du SCAB.
Oui, parce que le Sochaux, Rouen, Dijon, c'est des équipes qui jouent la montée.
Voilà,
et vu les budgets, ils sont en situation, ils sont obligés d'essayer de grimper. Donc ça va être très dur. Tu as Fleury, si tu perds contre Fleury chez toi. Après, tu as donc Dijon, et comme le disait Thierry, Dijon et Sochaux. C'est... Pour l'instant, tu es à l'abri au milieu de tableau, mais il faut faire attention.
Voilà. Un petit point au niveau du classement, les Aubagnais sont 9e après 23 journées avec 28 points. Ouais. Donc, pour l'instant, les objectifs sont plutôt atteints. Ouais.
Il n'y a pas péril en la demeure, espérant ne pas atteindre ce niveau-là. Il faut gagner pour se faire.
Voilà, on va enchaîner avec la Ligue 1 et l'Olympique de Marseille, donc la 24e journée. Et donc, belle victoire renversante de l'Olympique de Marseille dimanche soir au Vélodrome face à l'Olympique Lyonnais.
Oh, oui.
Voilà. Un petit mot sur ce match, Franck.
Alors, il y a beaucoup de mots à énoncer. Il est vrai qu'une séquence d'émotions forte sur l'ensemble du match, de la première à la dernière minute, et évidemment que ça rentrait dans les détails que nous allons aborder dans un instant. Il est évident que je ne suis non pas joyeux mais heureux de la situation, mais ce n'est pas une fin en soi.
Voilà, et disons que pour avoir été au stade, quand à la troisième minute, on se prend un but de Tolisso sur une balle perdue, je me demande encore comment on peut prendre le but. C'est assez lamentable. On se regardait tous en se disant, on va se faire... Et il y a 3-4 semaines, on perdait ce match. Parce qu'on ne serait jamais revenu mentalement. Et si Abibey a fait une bonne chose... J'espère qu'il en fera encore plein d'autres. C'est d'avoir remis le mental dans cette équipe, parce que tu es mené 1-0 et en plus Lyon jouait très bien et te dominait. Tu n'as pas cédé, tu as attaqué, tu t'es créé des occasions, tu n'as pas marqué, ce qui veut dire que ça aurait pu faire gamberger.
Absolument.
Et la principale victoire, autre que le résultat, c'est le mental. Ouais. Tu as une équipe qui s'est battue tout le long, qui n'a jamais lâché. Alors qu'il y a un mois, tu te prenais une valise.
C'est l'élément notable de ce match-là, en lieu, au-delà de la victoire.
C'est vrai que le mental et l'état d'esprit, c'est ce qu'on avait en partie perdu ces dernières semaines sous les ordres de Roberto De Zerbi. Et puis bon, là, c'est vrai qu'en l'espace de quelques jours et cette semaine passée dans le sud de l'Espagne, du côté de Marbella, ça a remis les têtes à l'endroit côté marseillais, messieurs.
Oui. Ça a porté ses fruits, en l'occurrence, sur cet aspect-là, en espérant justement développer le reste et aller au bout, non pas de nos rêves, mais de cette continuité.
Oui, parce que là, comme je disais, on s'est regardé avec les copains dans le stade, la troisième minute, il en prend un. Et en plus, Lyon, je le redis, mais ils ont bien joué, c'est une belle équipe.
Très belle équipe.
Ils n'ont pas de banc, mais ils ont une très belle équipe. Et tu te dis, si tu en prends une seconde, c'est ce qui s'était passé à Paris, le 5-0. Ils avaient déroulé, tu étais fait. Et là, tu as bien repris le contrôle, tu t'es créé des occasions. Alors, tu as été maladroit parce que tu as 4 ou 5 occasions en première mi-temps. Bon, je veux bien que le gardien fasse de belles parades devant Greenwood. Mais quand même, tu as 3-4 occasions très nettes, tu ne marques pas. Mentalement, tu as tenu. Et en seconde mi-temps, tu es arrivé à revenir et à égaliser. Ils ont repris l'avantage de 1, tu es revenu de 2 et tu t'es arraché pour gagner en fin de match. Et ça veut dire que mentalement, tu as une vraie équipe, quoi. C'est un comportement d'équipe qu'on ne voyait plus depuis quelques semaines, quelques mois, quoi.
C'est vrai, parce qu'on a vu quand même des belles prestations. Ces dernières semaines, c'était compliqué. Mais bon, dans le jeu, il y avait quand même des choses positives.
Oui, au-delà de... On va parler peut-être de joueurs nominativement, du retour de Balerdi dans ce poste et dans une défense à 4. Il est vrai que on peut parler de cela et l'animation avec le milieu de terrain. Et devant, évidemment, il n'y a eu guère de surprise, si ce n'est la présence d'Aubameyang avant toute chose, d'ailleurs. Et heureusement qu'il était là.
Oui.
Voilà, on pouvait douter de l'absence de Gouiri, je ne sais pas. Et puis finalement, l'implication de pratiquement tous les joueurs était excellente, au-delà ben, évidemment de quelques erreurs de positionnement ou de passe ou de temps de jeu. Mais bon, ben, le scénario en tout cas est plus que profitable à notre équipe et à nos supporters.
Oui, oui. Mais c'est vrai que c'est quand même, bon, c'est une victoire ce qui est très importante mentalement, parce que tu as, si jamais tu avais perdu, je te dis pas le, je te dis pas le, la crise que tu aurais, y compris de la part des supporters, mais qui ont quand même tenu. C'est-à-dire que l'équipe a été ovationnée à l'entrée. Après le but, on a encouragé, ça gueulait, ça scandait et tout. Et même si tu n'arrivais pas à marquer en première mi-temps, tu n'es pas sorti sur les sifflets en la mi-temps. Tu as été encouragé quand tu es revenu en début de deuxième mi-temps, le stade chantait, quoi. Donc... ça, c'est important.
Oh, que oui.
Mais c'est aussi parce que les mecs ne se sont pas, ont pas lâchés que le stade il a suivi. Hein. Ouais. C'est lié.
Il
hein.
n'y a pas eu de fronde de la part des supporters et ça, c'est plutôt positif. Mais oh, en fait, c'est, oui. je pense que c'était par rapport au comportement des joueurs parce qu'on a vu qu'il y a vraiment, dans l'état d'esprit, au niveau de la combativité, les joueurs de Abibay ont répondu présents sur cet Olympico. Voilà.
Tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est l'implication de nos joueurs qui ont permis au public de rester fidèle dans justement dans son investissement de supporteriat.
Voilà, et en plus, je pense que Bay, il a quand même un avantage, c'est que son passé d'ancien joueur, d'ancien capitaine de l'OM, c'est un joueur qui est très respecté, c'est un battant, un combattant. Donc ça fait que malgré tout, lui, tu ne vas pas le siffler. Il a été très applaudi, là, son nom a été scandé et tout. Mais même les joueurs, le fait que tu te battes, que tu essayes, que tu tentes, parce que la première demi-heure, tu as repris le contrôle, tu as fait une attaque défense avec Lyon. Ouais. Où tu, et le stade a été pas mal, comment je dirais, pas énervé, mais parce que les Lyonnais, ils n'arrêtaient pas de tomber, d'être blessés.
Ah, oui.
Alors, en première mi-temps, il y a eu une bonne dizaine de fois où les mecs étaient à terre.
Il y a eu beaucoup de fautes.
Oui, alors, beaucoup de fautes. C'était un match engagé, mais à mon avis, il y avait aussi, à part peut-être Hendrick qui s'est pris un ou deux tampons, là, il s'est les pris, il n'y a rien à dire. Mais il y a quand même beaucoup de mecs qui tombaient au premier coup de vent.
Oui, on a senti beaucoup de tricherie. Oui.
Et qui ont couru comme des lapins après, qui ont fini le match sans broncher et qui ont absolument rien, quoi. Et ils ont essayé de casser le... Alors, il y en a qui vont te dire, c'est de bonne guerre. Hein. Tu casses le rythme, on les dominait, on leur mettait une pression d'enfer. Dès qu'ils pouvaient avoir un mec par terre, et même le gardien de but l'a fait se retrouver et tout. Donc à ce moment-là, après, on ne peut pas critiquer l'arbitre, même si on parle d'anti-jeu. Mmh. Le mec, il est à terre, il y a eu un choc, tu ne sais pas. Tu ne peux pas, a priori, dire... voilà, il a quand même mis un carton parce qu'il mettait 10 minutes à tirer un coup de pied arrêté.
Oui.
Mais voilà, mais ça, c'est pas cher payé parce qu'ils ont vraiment pourri le match.
Ah
et
oui.
C'était assez rugueux. Le match était physique, mais l'arbitre a beaucoup laissé jouer, donc c'était un match spectaculaire et intéressant. Hein.
Oui, oui.
Dans l'ensemble, M. Brizard, l'arbitre de la rencontre, a plutôt bien tenu les débats.
Oui.
Si on s'en tient à, par rapport au carton et aux décisions. Bon.
Malgré les a priori qu'on pouvait avoir, il est vrai qu'il a tenu son match de fort belle manière. Maintenant, pour revenir à ce que tu disais, Patrick, il est vrai qu'ils ont usé et abusé, non pas d'anti-jeu, mais de casser le rythme. Ils voyaient qu'ils étaient un peu en dedans, qu'on était un peu supérieur dans la domination, mais ils ont su, évidemment, rebondir face à nous.
Après, c'est du vice, c'est-à-dire tu es dominé, tu prends les vagues, tu as un mec qui reste à terre, on fait rentrer les soigneurs, ça dure 2-3 minutes, tu casses le rythme. C'est archi connu, il y en a qui vont
c'est
te
pour
dire,
gagner du temps.
Voilà, tu gagnes du temps, mais même si l'arbitre a décompté, parce qu'il y a eu des arrêts de jeu longs première
il
mi-temps
est vrai.
Et en seconde,
8 minutes en première,
c'est très difficile après pour l'arbitre, parce que moi j'entendais les gens qui gueulaient, mais de savoir si le mec il a vraiment pris un coup ou pas. Je disais, à part une fois Hendrick où il se fait découper, où là tu sais qu'il n'est pas par terre pour rien.
On a vu qu'il ne simulait pas.
Les autres, quand ça a été Tagliafico, l'Argentin ou des trucs comme ça, tu te doutes que le mec, il fait du cinéma, ou Tolisso, qui fait du cinéma, puisqu'après il court comme un lapin, quoi. Mais le mec, il a eu un choc, c'est très difficile de sanctionner. Et c'était très compliqué. Ce n'était pas un match évident à arbitrer.
Oh, non.
Et après, voilà, après la décision contestée, c'est hors-jeu, pas hors-jeu.
Le but refusé. Voilà.
Le VAR dit qu'il y a hors-jeu. Moi, je vois les images. C'est vrai que c'est millimétré.
Oh, que oui.
Mais quand Lyon, ils ont pris les points avec des buts refusés pour des actions extrêmement limites, ils n'ont pas gueulé que l'adversaire avait été lésé. Quoi. C'est, malheureusement, le hors-jeu, c'est au millimètre. Hein.
Mais c'est vrai que ce deuxième but de Corentin Tolisso, le hors-jeu, il est quasiment microscopique. Donc
ouais,
c'est très, très difficile entre, pour l'arbitre et pour la vidéo-assistance.
Oui, oui.
Bon, ben, c'était le rôle de la vidéo-assistance, justement. Il y avait ce révélateur. Bon, ben, évidemment qu'après la décision...
Après, moi, je comprends la décision, parce que quand tu regardes les images, on a regardé,
ouais, oui.
On a regardé sur Internet et tout. L'arbitre, il est sur la ligne, mais il regarde le jeu. Et Tolisso, il arrive lancé. Et donc, c'est vrai que je comprends qu'il ait levé le drapeau après le but. Hein. Il a laissé finir l'action. Parce qu'effectivement, quand tu le regardes comme lui a dû le voir, il était quasiment sur la ligne de hors-jeu. Tu as clairement le sentiment qu'il est hors-jeu. C'est quand tu regardes l'image arrêtée que c'est extrêmement limite. C'est, comme on en a eu plein déjà, des hors-jeux, où il y a le talon qui dépasse, où le mec, c'est le corps qui est en avant, mais le pied est derrière, mais le corps est devant. Enfin, c'est des situations effectivement problématiques. Quand c'est contre toi, tu gueules. Quand c'est pour toi, tu dis « Ah ben oui, mais il y a peut-être 5 mm, mais il y a 5 mm ».
On a été victime de cela également, et cette fois, c'est à notre avantage.
Voilà.
Même si à la télévision, car j'ai regardé le match à la télévision, j'ai pas eu la chance d'aller au stade, mais il se trouve que, quand bien même, les commentateurs, tout en voyant la décision de la VAR et en voyant l'indicateur qui donnait le hors-jeu, etc., ben, ils n'étaient pas sûrs de leur sujet en commentant justement cette action. Bon, ben, le résultat étant que le but a été refusé.
Voilà. C'est vrai que des fois, on peut s'appuyer sur les images du diffuseur, Ligue 1 Plus en l'occurrence, mais là, visiblement, il y a eu un flou qui a régné pendant quelques minutes.
Voilà. Et après, moi, j'ai souvenir de hors-jeu où on te montre, en Ligue des Champions, hein, où le mec, c'est le pied qui dépasse, où c'est le talon. Et tu es hors-jeu ou pas hors-jeu pour des histoires de millimètres. Après, à un moment donné, il faut prendre une décision. C'est comme ça, c'est le millimètre ou pas millimètre. C'est hors-jeu, c'est pas... C'est comme le ballon qui a franchi la ligne ou pas. C'est pas de 10 cm. Il a franchi ou il n'a pas franchi. Là, c'est un peu pareil. Ça, c'est tombé de l'autre côté. Tant mieux pour nous. Mais bon, il y a une décision qui a été prise. À un moment donné, tu ne peux pas accepter les décisions quand elles te sont favorables. Et pas quand elles ne te le sont pas. Parce que les Lyonnais, ils ont gagné pas mal de matchs dans la série de 13 victoires consécutives qu'ils ont eues, où ils ont gagné à l'arrache, où ils ont eu un but refusé à l'adversaire pour un hors-jeu de millimètres.
Donc, ils étaient malvenus de leur part, au scandale. Ouais.
Voilà, vas-y.
Non, ça a suscité la colère de Paulo Fonseca, l'entraîneur portugais de l'OL, et par rapport à cette décision. On l'a vu se présenter très rapidement en conférence de presse après match et évoquer sa frustration par rapport au but refusé de Quentin Tolisso. Il a même avancé que ce soir, son équipe avait marqué 3 buts. La meilleure équipe avait perdu, donc... Ça prouve qu'ils sont peut-être mauvais joueurs. Les Lyonnais, ils sont mauvais perdants sur cette affaire, j'ai envie de dire.
On peut l'interpréter ainsi. Voilà.
Oui. Non, mais en plus, ils ont été, ce qui a été d'ailleurs leur a valu beaucoup de sifflets dans le stade, ils ont été assez chambreurs. Quand le jeune Mbert, 18 ans, c'est un néo-pro, il marque le second but, sur lesquels on reparlera parce que la défense, c'est assez catastrophique.
On peut le souligner.
Mais le mec, il est venu, il a chambré les tribunes, quoi, en mettant les mains sur les oreilles. Et Tolisso, il n'a pas arrêté de chambrer. Quoi. Donc, à un moment donné, quand tu chambres, il faut accepter que quand ça tourne mal, ben, tu te fasses reprendre de voler.
Ça fait partie du jeu
c'est,
de la
voilà,
l'ensemble.
Si tu veux pas qu'on te chambre, il faut pas chambrer. Quoi.
Mais c'est vrai que Corentin Tolisso, capitaine lyonnais, avait lancé les hostilités déjà avant la rencontre, notamment lors du point presse avant la rencontre, où il avait évoqué la dynamique des deux équipes. Donc, ils sont arrivés peut-être un peu trop en excès de confiance, les Lyonnais. Puis bon. Voilà, eux qui restaient déjà sur une défaite à l'extérieur, puisque c'était leur deuxième match après un déplacement à la Méno face à Strasbourg le week-end dernier.
Ah, ouais. Après, ce qui les a peut-être desservis, c'est qu'ils marquent très tôt sur une énorme erreur. Et à ce moment-là, ils ont, alors qu'ils avaient ils maîtrisaient le jeu, ils dominaient. 3 minutes, bon, c'est très court. Vite, hein.
Même pas, si on regarde les...
30, oui, 2-30. Yeah. Mais ils ont lâché, ils ont reculé, ce qui fait qu'ils t'ont laissé prendre le ballon, t'organiser, et pendant pratiquement une demi-heure, tu as fait une attaque défense.
C'est là qu'on a bien développé.
Voilà, tu as bien développé. Tu n'as pas réussi à marquer, mais ce qui fait que peut-être ils auraient été plus malins de continuer à attaquer, d'essayer de te mettre le deuxième. Et là, il n'était pas dit que ça ne change pas le match. C'est peut-être même qu'ils se sont mis en difficulté en se repliant après le premier but. Troisième minute, un but. Moi, j'aurais été, vu le contexte, c'est-à-dire l'équipe qui était en difficulté, qui se posait des questions. Si tu marques le deuxième, tu ne sais pas comment va réagir le stade et tu ne sais pas si les mecs, mentalement, ils vont s'accrocher. Et l'erreur qu'ils ont commise, c'est peut-être de ne pas y aller. De reculer abusivement et de passer leur temps par terre à gagner du temps.
Mais là, tu penses, Patrick, que sur la première période, ils avaient vraiment l'occasion de nous enfoncer, de nous mettre la tête sous l'eau au vu des occasions. Parce qu'il faut rappeler qu'à la pause, ils rentrent avec seulement un but d'écart. Il n'y a que 1-0 à la mi-temps. Donc, tout reste à faire encore pour cette équipe lyonnaise.
Oui. J'ai donné un petit bémol par rapport à ce qui vient d'être dit. Il est vrai qu'ils ont reculé d'un cran, mais ça se fait évidemment dans l'imaginaire collectif de la situation. Mais le score, on recule un peu, mais il ne faut pas oublier le fait que nous avons, on parle bien de l'OM, évidemment, monté notre niveau d'un cran et on n'a pas eu peur de s'engager un peu plus et chercher un petit peu la profondeur. Nos milieux et nos défenseurs ont réussi un petit peu à distribuer des ballons et on a eu quelques occasions évidemment assez intéressantes.
Moi je pense qu'en te laissant le ballon, ils t'ont permis de te remettre en confiance.
Totalement.
Alors après, ce qui aurait pu être dramatique, c'est qu'on a eu des occasions qu'on n'a pas mises. Le gardien a fait quelques... Devant Greenwood, il a fait deux belles parades. Et puis, bon, Aubameyang a vendangé une occasion. Enfin,
Mais il s'est bien repris.
Voilà. Donc, on a eu quelques actions où on n'a été pas très bon offensivement. Et si là, les Lyonnais avaient appuyé, chaque fois qu'il y avait un contre, on tremblait, quoi. Parce qu'en plus, le Weah montait énormément. Emerson était dans un très mauvais jour. Et la défense, on sait que Balerdi, il a du mal à gérer la profondeur. Et disons qu'il y a Hendrik qui a fait un très gros match. Et donc, ils auraient dû... S'ils avaient été plus forts, entre guillemets, dans la tête, ils auraient essayé de jouer les contres à fond. Parce que là, ils te mettent un second but à la demi-heure de jeu. Tu sais pas où tu vas, parce que là, ça pouvait... Il pouvait y avoir des sifflets dans le stade, il pouvait y avoir...
Ça aurait pu chambouler tout le scénario du match à suivre.
Voilà. Parce qu'à 1-0, les deux virages ont commencé à gueuler, à scander, pas à engueuler l'équipe, mais à soutenir. Aux armes et compagnie, on y va les gars.
Ça a poussé fort de la part du public marseillais.
Très, très fort.
Les joueurs se sont presque sentis pousser des ailes. Donc le fait de... Ça les a un peu galvanisés en seconde période.
C'est le terme que j'allais employer. Tout à fait, Thierry.
Parce que quand tu regardes, 66 200 et quelques spectateurs, puisque les Lyonnais étaient interdits.
Oui, il n'y avait pas de supporters lyonnais.
La tribune visiteur a été vendue. Le stade à guichet fermé, comme d'habitude, et 66 000 qui poussent. Et c'est là que ça a été important. Et c'est là que tu te dis, s'ils avaient réussi à attaquer, à te mettre une seconde, là, tu étais en difficulté. Parce que si tu prends une seconde en première mi-temps et que tu rentres à 2-0, tu peux avoir un stade qui réagit différemment. Nous, c'était un peu la peur qu'on avait.
Et ainsi que nos joueurs.
Voilà, on pensait à entendre les capots. Moi, je suis virage sudé aux ultras. En entendant les capots des ultras, des winners, tu savais que le virage, il allait pousser. Mais tu te méfies des tribunes latérales, des sifflets, de la bronca, la sortie à la mi-temps. Et là, peut-être, c'est peut-être là que les Lyonnais ont raté l'occasion.
Ils n'ont pas réussi à enfoncer le clou et malheureusement, ça s'est retourné contre eux.
Et même si on n'est pas arrivé à marquer, la domination technique collective, on était à 65% de possession à la mi-temps, fait que ça t'a remis en confiance. Ça a permis à l'entraîneur, pendant au vestiaire, de te rebooster en te disant « On a eu des occasions, on peut marquer, on y va. » Voilà. Enfin, mais sinon, après, je comprends que Fonseca soit déçu du résultat. C'est un résultat... À un moment, ils avaient 8 points d'avance. À la fin du match, ils n'en avaient plus que 2.
On parle de ces scénarios mathématiques au fil de la rencontre. À un moment donné, comme tu disais, il y avait 8 points d'écart avec nous.
Et à la fin, il y en a 2.
Voilà. C'est le résultat qui compte sur le coup.
Donc là, messieurs, la course au podium est totalement relancée à 10 journées de la fin, si on vous écoute. Après, il faudra quand même regarder les calendriers des uns et des autres. Oui. Mais bon... En sachant que les équipes derrière s'étaient imposées, notamment le Stade Rennais, Lille, l'AS Monaco, il fallait impérativement pour l'OM de prendre des 3 points et s'imposer sur cette journée.
Alors il est évident, Thierry, tu as raison, il faut continuer à observer le rétroviseur malgré ce, parce que même si on a la possibilité de réintégrer ce groupe de 3, et on n'en est pas loin, mais bon, il ne faut pas se faire d'illusions non plus. Ce n'est pas, comme je l'ai entendu ici et là, une création d'une équipe, etc. On a vu une autre équipe, non. Là, j'entends des bêtises, tout simplement. Il faut simplement rester dans cette idée-là de continuité, de réussite, et croire à nos possibilités.
Je rappelle qu'on est quatrième.
On est toujours quatrième, après cette victoire.
3 points d'avance sur Lille et Rennes. Mais Lille et Rennes, on les reçoit en championnat, tous les deux. Lille bientôt.
Lille dans 3 semaines.
Avant la trêve internationale. Rennes, c'est la dernière journée. Mais on les reçoit, ce qui te laisse la potentialité d'être 6 points. Et Lyon est à 2 points. Et Lyon va avoir un problème, même s'ils vont récupérer des blessés, puisque ils ont des joueurs qui vont revenir très vite. Même si Fofana et Nuama, revenant de graves blessures, c'est beaucoup plus long.
Ça fait depuis quelques mois qu'ils ne jouent plus.
Oui, Nuama s'était fait les croisés, ça fait un an qu'il ne joue pas. Et Fofana, c'est depuis octobre. Donc, tu ne reviens pas aussi rapidement que ça. Mais toujours est-il qu'ils ont, eux, l'Europa League, où ils ont un tirage qui est assez favorable.
Le Celta Vigo.
Celta Vigo, c'est quand même une belle équipe. Mais ils sont dans le bon côté. C'est-à-dire que la Roma, Aston Villa, c'est l'autre côté.
Ils ont évité les gros poissons, les cadors, j'ai envie de dire.
Ouais. Voilà, exactement.
J'ai trouvé l'Atlantique de Galice.
Voilà.
C'est une région où moi j'ai du bon poisson en Galice.
Absolument.
Et même si le Celta, ce n'est pas une équipe facile, attention, ce n'est pas un cadeau, Celta Vigo. C'est une grosse équipe. C'est faisable. Donc, il y a une possibilité qu'avec les matchs de Europa League le jeudi, ils soient amenés à perdre des points en championnat le dimanche. Et nous, ça peut nous servir, parce que 2 points d'écart, il suffit qu'ils concèdent nul. Voilà, et puis après, encore faut-il que toi, tu gagnes. Comme je disais, Lille et Rennes sont 3 points derrière, tu les reçois, ça peut faire 6 points. Si tu n'arrives pas à les battre, ça ne fera pas 6 points.
Pour faire la différence, il faudra gagner les matchs. Il n'y a pas de secret,
pas
compter
miracle,
sur les autres.
Il faudra gagner les matchs, mais nous n'avons pas l'Europa League.
Cette équipe lyonnaise, c'est la seule équipe française qui est encore en lice sur tous les tableaux, des objectifs à aller chercher en Ligue 1, en Coupe de France, avec la réception du Racing Club de Lens ce jeudi pour les quarts de finale. Tu en parlais, Patrick, la Coupe d'Europe et l'Europa League avec cette double confrontation contre les Espagnols du Celta Vigo.
Oui, rappelons que pour eux, c'est un objectif, parce que d'abord, c'est... Personne, aucun club français n'a jamais gagné l'Europa League. Nous, on a fait 3 finales, on a perdu les 3. Mais aucun club français n'a gagné. Et le vainqueur de l'Europa League, il est en Ligue des champions d'office.
Ouais. Tu fais bien de le rappeler. Hein.
Voilà, donc financièrement, c'est un sacré enjeu pour eux. Je ne sais même pas s'ils ne vont pas sacrifier la Coupe de France.
Et c'est la question importante, ça.
À l'Europa League, parce que voilà, ils auront du mal à jouer sur les 3 tableaux. Par contre, s'ils reçoivent Lens, qui est une belle équipe, qui est compliquée, Et par contre, l'Europa League, c'est l'occasion. Hein, quand tu as la chance d'être dans un bon tableau, tu te dis, je peux aller au bout. Quoi. Donc, voilà. Donc, pour nous, c'est un avantage parce qu'ils risquent de laisser des plumes. Voilà. En plus, avec des joueurs qui reviennent de graves blessures comme Fofana, Nuama, Mangala, le Belge, qui est un milieu de terrain. C'est les joueurs qui...
Il y a beaucoup d'absents dans cette équipe lyonnaise. Oui,
quand tu reviens de blessure, c'est des fois un peu dur. Voilà.
Je ne pense pas que l'Olympique lyonnais négligera justement ses matchs de championnat ou de Coupe de France à venir, celui à venir, en l'occurrence. Au contraire, je pense qu'ils vont jouer tous les matchs à fond. Or, peut-être une fatigue interviendra en championnat de France sur les prochains matchs à venir, avec l'Europa League justement et les trois compétitions. Mais bon, il est évident que pour la Coupe de France, je crois qu'ils iront au bout. C'est un objectif pour eux également.
Hein. Oui, mais...
J'ai du mal à imaginer que les dirigeants lyonnais et tout le staff, board lyonnais, abandonnent une compétition au détriment d'une autre.
On est bien d'accord.
Là, à ce stade de la saison, c'est difficilement envisageable.
Ah bah ouais. Oui, mais enfin, on l'a vu dimanche soir. Quand tu regardes, ils n'ont fait que deux changements. Alors, ils avaient deux, trois joueurs un peu costauds sur le banc, parce qu'il leur manquait Schultz, là, le
ouais,
tchèque.
Voilà. Hein. Ce qu'on peut noter, c'est qu'il y avait quand même deux absents majeurs, avec l'international tchèque Pavel Schultz, l'ancien joueur de Plzeň, et Afonso Moreira aussi, le jeune portugais, qui était absent de la feuille de match pour cause de blessure.
Voilà, c'est d'accord. Mais si tu veux, à un moment donné, on l'a connu, parce que le problème de l'Europa League, c'est que tu joues le jeudi.
Ouais, les matchs
donc
sont
en championnat,
le jeudi.
Tu joues le dimanche.
Ouais.
Et si tu te déplaces, ils vont aller à Vigo, tu rentres à 5h du matin, tu rejoues, tu rentres vendredi à 5h du matin et tu rejoues dimanche. Donc c'est un peu compliqué. Et des fois, quand l'OM l'avait joué, on avait laissé des plumes. Et beaucoup d'équipes qui le jouent laissent des plumes. Parce que tu as un phénomène de fatigue, tu es obligé de faire tourner tes gars. Sinon, les mecs, tu risques les blessures. Et donc, en fait, c'est pas une certitude, mais ça peut jouer en notre faveur. Donc, pour nous, c'est intéressant.
Ce qu'il faut souhaiter.
Voilà.
Mais je pense qu'évidemment, tout dépend des bandes de touche dans ces circonstances-là. Et même si celui de Lyon paraît moins étoffé, mais ne nous fions pas d'apparence que d'autres, que le nôtre, je l'espère en tout cas. Mais en fait, nous verrons bien le résultat à la fin du bal.
Mais après, ça dépendra parce qu'ils ont trois joueurs qui vont revenir de grosses blessures.
Aussi, ouais.
Est-ce qu'ils se remettront bien? Est-ce qu'ils reviendront à un niveau? Alors, on sait que ce matin, il y avait un article dans l'équipe sur le fait que Malik Fofana, le Belge, va se défoncer parce qu'il espère une place à la Coupe du Monde.
Oui, c'est vrai que lui, vu qu'il a été appelé récemment par Rudy Garcia, sur cette fin de saison, par rapport à son retour de blessure, il joue sa place en sélection des Diables Rouges pour la Coupe du Monde cet été.
Voilà, mais un grand paramètre très important.
Voilà, alors après, quand tu reviens d'une blessure, il est blessé depuis octobre. Nuama, n'en parlons pas, s'il est croisé il y a un an.
C'est vrai que pour le gagner, c'est une autre blessure, mais beaucoup plus importante.
Oui, c'est compliqué de revenir. Et quand tu reviens, tu as souvent une baisse de régime ou un peu des contre-coups physiques qui font que tu as une douleur, tu as des problèmes musculaires. C'est compliqué. Et donc, il n'est pas dit que les joueurs soient totalement à 100% sur la fin de saison. Quoi.
C'est évident.
Ça serait même assez logique qu'ils ne le soient pas complètement. Quoi. Donc, pour nous, tant mieux, on va profiter de la chose.
En espérant que l'on en profite.
Oui, parce que nous, on a une équipe qui était paramétrée pour jouer la Ligue des Champions. Donc, pour jouer des matchs 8e et trucs comme ça, que tu ne joues pas, tu as été éliminé de manière assez lamentable, mais tu as été éliminé.
Ça, on en a déjà parlé au cours des dernières semaines, donc c'est pas la peine d'y revenir. On va rester focus sur les objectifs de fin de saison, c'est-à-dire le podium en Ligue 1 et éventuellement aller décrocher un titre par le biais de la Coupe de France avec ce quart de finale qu'on va évoquer sur la dernière partie d'émission face à Toulouse demain soir au Vélodrome.
Ouais.
Et Patrick, je te laisse terminer et rajouter... ce que tu voulais.
Non, c'était juste dire que il faut profiter du calendrier. On a des matchs compliqués, mais c'est à nous. Si nous, on ne perd pas, ce serait excessivement surpris que Lyon garde les deux points jusqu'à la fin. Parce qu'ils vont avoir un calendrier féroce, puis ils auront des matchs compliqués eux aussi. Et si nous, on ne fait pas d'erreur, la troisième place est largement jouable. La Coupe de France, c'est un peu plus aléatoire. Mmh. Ça dépendra du tirage au sort des demi. Hein. Mmh. Voilà.
Pour l'instant, c'est au cours la même et on espère des faux pas sur ces 10 dernières journées. Et puis bon, c'est vrai que l'OM est prêt à en profiter à tout moment. Donc, et là, c'est vrai que le fait que l'Olympique Lyonnais soit encore en Coupe d'Europe, en Europa League, ça occasionne de la fatigue et ça peut être profitable pour l'OM. Hein.
Oui, on l'a subi, nous. Il n'y a pas de raison qu'eux ne subissent pas le contre-coup. Hein. Mmh. Voilà, c'est un peu...
Il y a tout un tas de paramètres qui entrent en compte. Ouais. Les matchs se suivent, évidemment. Et on ne souhaite de blessures à personne. Ah, après, il va y avoir des incidents qui font que... mais bon, mais nous verrons bien comment cela va se produire. Et en Coupe de France, bon, avant de parler de demi-finale, essayons justement d'en parler, Thierry, justement de parler de quart de finale,
voilà, de
car
passer.
C'est d'actualité.
Voilà. Et c'est vrai que par rapport au problème d'effectifs, vous parliez de Pierre-Emerick Aubameyang qui était titulaire. Mmh. Il y a eu une petite gêne au niveau musculaire qui a occasionné le forfait de dernière minute de Amine Gouiri, ouais, l'attaquant international algérien de l'OM qui n'était pas sur la feuille de match pour cet Olympico. Et il y a eu aussi une absence surprise, c'est la mise à l'écart de Bilal Nadir. Je ne sais pas ce que ça vous...
Ouais. Alors, ce qui a été communiqué officiellement sur Bilal Nadir, ils n'ont pas été très prolixes en explication. Maintenant, ce qui concerne évidemment notre avant-centre second, enfin, je ne sais pas si c'est le second, mais oui, mais je ne sais pas. Je ne sais pas si véritablement il avait un problème musculaire, comme ça a été dit, je m'interroge.
Bon, en fait, ça a profité au jeune Nigérian qui est arrivé lors du mercato hivernal, Nanadi, qui a fait ses premiers pas sous les couverts de l'OM.
Une première sur quelques instants de jeu.
Sur Gouiri, je pense que c'est vrai qu'il était blessé, parce que sinon tu le mets sur le banc. Et à la limite, heureusement qu'il était blessé, parce que sinon, Aubameyang a quand même 37 ans passés. Il aurait peut-être été sorti, mais deux buts dans les 10 dernières minutes.
Oui.
Donc tant mieux qu'il n'ait pas été le remplaçant.
Ouais.
Mais Gouiri, c'est une blessure. Il est même incertain pour le match de coupe contre Toulouse.
On va en parler.
Sur Nadir, je pense que c'est plus une question. Abibey a beaucoup insisté pendant le stage et puis avant le match. Et après le match, sur l'intensité, les chocs, le duel, le combat. Et c'est vrai que la grande faiblesse de Bilal Nadir, c'est un très beau technicien, mais c'est un garçon qui physiquement est un peu léger. Quoi.
Ce sont les paramètres que tu viens de citer.
Voilà.
Ce qui lui fait défaut.
C'est son profil, je pense, qui fait que Abibey a pris l'initiative de l'écarter pour ce match. Et puis bon, on verra si éventuellement il réintègre le groupe face à Toulouse demain en Coupe de France. Mais... En sachant que tu parlais de l'incertitude concernant Amine Gouiri, on peut rappeler pour nos auditeurs que Pierre-Emile Højbjerg sera absent, puisqu'il est suspendu, et que Quentin Timber, qui a cédé sa place à la mi-temps dimanche soir face à Lyon, s'est démis l'épaule, donc on crée une éventuelle blessure qui fasse...
Tu peux avoir 2-3 semaines d'absence, si l'épaule
démise. Ça va être assez problématique.
Oui, c'est un truc, Gouiri en avait souffert à l'automne. C'est un truc, c'est si tu laisses pas bien se remettre, tu risques qu'au moindre choc, et en plus les mecs le savent, ils savent que tu as l'épaule. Gouiri, je me rappelle, il avait été touché avec Bamou Meïté, l'ancien joueur de l'OM qui joue à Lorient, un choc où il avait avec le genou, il avait tapé l'épaule sur un ballon aérien. Il s'était démis, il était sorti du terrain, il avait fallu lui remettre l'épaule. Et après, les mecs, systématiquement, ils arrivaient l'épaule en avant pour le défoncer. Quoi. Après, il s'est fait blesser un match international
avec l'Algérie.
Voilà, mais je veux dire, les mecs le savent et tu opérer, sais qu'ils vont te cibler. Et l'épaule, c'est si tu es obligé d'être opéré, il y en a deux mois et demi.
Donc, ce qui concerne Nadir, il sera probablement, plus que probablement, sur la feuille de match.
Oui, sur la feuille de match, parce que c'est un bon gars. C'est pas un mec qui pose problème, Nadir. Par contre, moi, ça me renvoie à ce qui s'est passé ce week-end avec le Paris Football Club. Où Comboiré qui est arrivé avec un discours très guerrier, combatif, il a sorti Maxime Lopez, entre autres.
Qui avait le brassard de capitaine, l'ancien Olympien.
Capitaine et qui fait ses matchs à Paris FC, qui fait de bons matchs. Et c'est vrai que la faiblesse de Maxime, c'est que c'est physiquement, c'est un petit gabarit. Et donc, il avait choisi Mounetzi et des armoires à glace qui rentrent dedans. C'est un choix de Comboiré qui n'est sûrement pas définitif, mais tu mets des mecs qui vont aller au combat, quoi.
Mais c'est un choix qui lui a donné raison, Patrick.
Ah oui, bah ouais, il a gagné.
Vu le résultat du match. Ouais.
C'est ce qu'on se dit généralement quand le résultat est positif. C'est toujours l'entraîneur qui a le dernier mot. Puis bon, là, en l'occurrence, la mise à l'écart de Maxime Lopez, c'est ça.
Surtout que le joueur qui l'a remplacé, Marshall Mounetzi, c'est un Zimbabwéen, je crois. Et c'est lui qui a mis le seul but du match. Donc.
D'autant plus, avec une densité physique qui n'est pas celle de Maxime Lopez. Voilà. Ouais.
Et peut-être que c'est ça que Bilal paye. C'est un fin joueur de ballon, mais physiquement dans le combat. Et on sait que Lyon, avec Tesman, Narté, tout ça, c'est une équipe de... C'est une équipe qui rentre.
Il y a des joueurs physiques qui en imposent.
Qui a même tendance à laisser traîner, à filer, parce que... On te dit Timber, il s'est déboîté l'épaule, c'est pas un hasard.
C'est pas déboîté tout seul.
Voilà, c'est pas en tombant sur un brin d'herbe.
C'est à la suite d'un contact.
Forcément. Il s'est percuté, voilà. Et les pleureurs, ils mettent des coups aussi. Et donc, effectivement, c'est peut-être ça l'explication. Mais là, c'est vrai que contre Toulouse, Højbjerg suspendu, Timber blessé, tu vas devoir choisir entre confiance à Abdelli, faire re-rentrer. Ça m'étonnerait qu'il balance le jeune Nadi, qui a joué 5 minutes en fin de match.
Oui, il est rentré en toute fin de match, le jeune Nigérian arrivé il y a quelques semaines.
Sur la feuille de match, évidemment, mais Kondombia, évidemment, qui sera présent, il y a de fortes chances, sauf évidemment problème physique.
Kondogbia, on sait que son problème, c'est d'enchaîner.
Aussi, voilà.
C'est un garçon qui a des pépins physiques réguliers. Et son problème, c'est d'enchaîner les matchs. Dimanche, mercredi. Peut-être qu'il n'osera pas le mettre. Je ne crois pas qu'il mette Nadi parce qu'il n'a pas assez joué. Il a joué. Il est rentré en fin de match pour tenir le résultat quand on est passé à 3-2. Il a fait sortir Greenwood, dont la qualité première n'est pas de défendre. Il a fait rentrer un combattant au milieu de terrain.
C'est vrai que le jeune Nigérian, il manque de rythme. Parce qu'on sait qu'il a joué quelques minutes sous les ordres d'Eric Chiel en Coupe d'Afrique des Nations il y a quelques semaines avec la sélection du Nigéria. Mais depuis son arrivée à l'OM, c'est ses premières minutes. Donc c'est un joueur, un garçon qui manque de temps de jeu. Ça me paraît un peu prématuré dans un match d'une importance capitale comme face à Toulouse demain soir au Vélodrome, que Abibay le lance dans le grand bain.
Alors, à mon avis, sûrement Abdelli, parce que c'est un joueur d'expérience qui, en plus, s'est calmé, s'est gardé le ballon. Je pense qu'il va peut-être relancer Vermeuren, même s'il avait beaucoup déçu à Brest. Et peut-être une mi-temps Kondogbia, parce que Kondogbia, il a fait pratiquement, il est sorti à la 85. Donc, il a fait quasiment tout le match, où il a fait un bon match. Son expérience a été utile et peut-être que sur Toulouse, à l'absence d'Højbjerg, tu te dis qu'un joueur expérimenté comme Kondogbia, ça peut être un leader au milieu, mais alors une mi-temps, une heure maxi.
Il sera certainement titulaire, on verra ce qu'il donnera avant un éventuel changement, si c'est le cas.
Voilà.
Et sur le brassard de capitaine, avec l'absence de Pierre-Emile Højbjerg, c'est une question pratiquement anecdotique, mais
c'est important ce que tu dis.
On sera curieux de voir à qui Abibay donnera le brassard pour ce match-là, avec l'absence de Pierre-Emile Højbjerg suspendu.
On verra la composition d'équipe. J'ose imaginer que Valerdi jouera. Va-t-il lui redonner son brassard? Mais c'est quand même assez délicat à négocier dans la communication interne. Tu lèves le brassard à Valerdi pour le donner à Højbjerg, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais ensuite, l'absence de ton milieu international et le redonner à Valerdi. Là, je m'interroge sur cette manière de procéder, si ça se fait ainsi.
C'est possible.
Moi, je miserais sur Naïef Aguerd.
D'accord.
C'est peut-être une possibilité. On verra ce qu'il en est demain soir.
Aubameyang, c'est aussi une possibilité. Après, tu as aussi la possibilité de dire pour que tu te concentres sur ta défense, je t'ai enlevé le brassard. Parce que le capitaine, il a un rôle et tout. Et au moins, tu te concentres sur le travail défensif. Mais tu es le capitaine en second. Højbjerg n'est pas là, je te le rends. Ça peut être un moyen de donner de la confiance et de dire, je te fais confiance. C'est une possibilité. Je ne sais pas, on verra demain. Mais sinon, tu as Aubameyang qui peut. Et tu as, avec le problème, c'est qu'il a joué 98 minutes hier, dimanche soir. Ouais.
L'enchaînement des rencontres pour un joueur qui va sur ses 37 ans.
Voilà, ça va être compliqué. Et tu as la possibilité de le filer effectivement à Gerd, qui est quand même bon, qui a quand même, à mon avis, été défensivement meilleur parce que Balerdi, il a quand même eu 2-3 trous. Sur le second but lyonnais,
oui,
il est pas
dans l'ensemble,
impérial,
il a fait un match assez correct.
Oui, oui, oui.
C'est plutôt à gauche qu'on ne parle pas d'Aguerd, mais qui a eu quelques soucis
d'Emerson,
d'Emerson qui était un peu à côté de son sujet.
Oui.
Je trouve que Balerdi a fait un match honorable, malgré une ou deux erreurs de trou. Mais enfin,
Le problème de Balerdi, c'est que sur le second but, alors moi, du stade, tu ne vois pas bien, parce que moi, je suis virage sud, donc c'est de l'autre côté. Mais après, en regardant bien à la télé, c'est quand même un gamin de 18 ans, le mec, il te promène. Quoi.
Ah oui.
Il te projette, il t'efface, il arrive à tirer, tu n'arrives pas à contrer. Ouais. Et le goal est pris parce qu'il peut penser que tu vas intercepter, que tu vas contrer.
Oui, une erreur d'appréciation
il
notable.
Il se fait quand même balader par un jeune de 18 ans, alors qui est international et U18, tout ce que tu veux, mais qui est quand même un gamin, c'est le 5e ou 6e match en pro. Quoi. C'est quand même un peu... Voilà, quoi. En face, c'était pas Mohamed Salah, quoi. C'est pas Harry Kane.
Ouais.
Quoi. Donc, c'est quand même un gamin qui t'a promené.
On parle de Rémi Humbert, un jeune joueur du centre de formation de l'OL, âgé de 18 ans.
Joueur prometteur, mais en tout cas, on n'espérait pas qu'il marque face à nous.
Hein. D'après ce que j'ai lu dans l'équipe, il est né le 29 février.
Oui, c'était son anniversaire.
Donc, il a eu 18 ans. Et donc, le mec, il est bon. C'est un bon joueur. C'est un jeune d'avenir. Il est talentueux. C'est quand même un gamin de 18 ans, quoi.
Ouais.
Et il t'a promené, quoi.
Mais pour revenir à ce que nous disions, donc par rapport au brassard de capitaine, justement, est-ce qu'on redonne confiance à Balerdi, comme ça a été le cas, ou non? Mais après Paris Saint-Germain, je ne sais pas. Mais du coup, il y a le match de dimanche. Est-ce qu'on va lui redonner le brassard à l'absence d'Holberg? Parce que si tu le files à Gaz, par exemple, sur une ligne défensive, ben, je ne sais pas, il n'y aura pas de jalousie. Même fait, je trouve ça un peu déplaisant quand même.
C'est Habib Bey qui est dans le vestiaire.
Qui décidera.
Je pense que c'est lui qui verra en fonction, en fonction du rapport de force interne, du vestiaire, de comment les mecs le vivent. Parce que, rappelons quand même à nos auditeurs que Højbjerg, c'est le capitaine de l'équipe du Danemark.
Ouais.
Il a même été capitaine en second, mais capitaine à Tottenham. Donc, quand même, le mec, c'est pas un peintre. Quoi. Donc,
il a des références à ce niveau-là.
Voilà, tu peux lui donner. Oui. On va te dire qu'à Gerd, il est capitaine en second du Maroc derrière Achraf Hakimi. Voilà, donc c'est pas des peintres.
Ouais.
Mais quand même,
il y a beaucoup de joueurs d'expérience dans cette équipe.
Voilà, c'est quand même un choix, quoi. C'est quand même un choix.
C'était pour trancher sur une probable, et je n'espère pas, rivalité sur un brassard. Je n'y crois pas, mais enfin, malheureusement, on est à l'abri de rien.
Voilà, et on verra, mais je pense pas que, je pense pas que ça pose problème. Le vestiaire avait, à mon avis, un problème de mental, mais c'était pas dû à des rivalités. Je pense pas qu'il y ait des clans à ce niveau-là.
D'accord. Ouais.
Peut-être par rapport à l'ancien entraîneur, qui avait des mecs qu'il n'aimait pas, il y avait des clans. C'est possible parce que moi, je reste quand même sur. J'ai vu des matchs Newcastle en Ligue des Champions. Tu es mené 1-0, tu reviens à la mi-temps et tu t'arraches et tu gagnes. C'est une équipe qui s'était battue comme dimanche soir contre Lyon.
Ouais.
C'était au combat pendant 100 minutes qu'on avait les arrêts de jeu. Quand tu as vu le match de Newcastle, tu ne comprends pas le match à Bruges.
Mais tu te dis,
ce n'est pas la même équipe.
On
c'est
passe
pas possible.
D'une extrême à l'autre. Ouais.
Donc, il y a sûrement des raisons internes qui ont fait que... D'ailleurs, Højbjerg, quand il a parlé après le match, j'ai bien regardé ce qu'il avait dit. Il a parlé, on s'est regardé en face, on s'est parlé entre nous.
Ouais.
C'est qu'il y avait de quoi se dire. Voilà.
On sentait l'unité, justement,
qui
les transportait tous ensemble. Ouais.
Que tu as vu sur la fin de match, tu mettais un grand coup de botte en touche, tu dégageais en touche, tout le monde hurlait. Quoi. Donc c'est significatif que le groupe s'est ressoudé.
Voilà, on est reparti sur de nouvelles bases.
Espérons.
Et de tout cœur.
Voilà. Ce stage a fait du bien, donc dans le sud de l'Espagne, à Marbella, c'est 5 jours passés. Loin de la commanderie et du microcosme marseillais.
Oui, toujours forcément. Et puis, un entraîneur qui arrive, il a besoin d'avoir ses joueurs. Parce que pour l'expliquer à nos auditeurs, et tout le monde ne connaît pas le fonctionnement, tu viens à l'entraînement, l'entraînement fini, tu rentres à la maison. Ouais. Tu es à Marbella en stage, l'entraînement fini, tu rentres à l'hôtel, tu vas boire un coup, tu vas manger ensemble, après le repas, les groupes vont se former, tu vas discuter.
Tu arrives à resserrer les liens et voilà. Avoir une cohésion de groupe qui s'était en partie perdue ces dernières semaines.
Ça permet à l'entraîneur et à son staff d'aller parler avec des petits groupes de joueurs, avec des discussions individuelles, surtout que c'est un staff nouveau, mais qui a pu s'appuyer sur quelques anciennes, dont Pancho Abandonado, qui lui connaît très bien le groupe, et qui donc a pu te donner des infos. Ils se connaissent avec Bey, ils se connaissent, ils s'apprécient.
C'est ce que nous attendons de ce genre de rassemblement.
Et donc ça te permet de gagner du temps, il t'explique, il t'introduit auprès des joueurs, Et donc ça a été, à mon avis, fondamental.
Ça t'a porté ses fruits à ce niveau-là,
parce qu'en prenant un but comme ça en début de match, en n'arrivant pas à égaliser, il a fallu que l'équipe soit costaud pour ne pas lâcher dans la tête. Et moi, je suis sûr qu'il y a un mois, l'équipe, elle le lâche et tu prends une valise, comme à Paris.
Oui,
c'est vrai qu'en regagnant les vestiaires 1-0, j'imaginais le discours qu'allait tenir le coach Albi Bey pour remettre cette équipe dans le droit chemin à l'entame de la seconde période. Et puis bon, il y a eu ce bon coaching avec l'entrée d'Igor Pacheco qui a remis de suite son équipe dans le droit chemin. Et après, il est arrivé ce qu'il est arrivé. Donc on a vu une équipe lyonnaise prendre l'avantage, mais l'OM n'a rien lâché et a continué à attaquer jusqu'au bout. Et avec ce dénouement incroyable et ce but de Pierre-Emerick Aubameyang à la 7e minute du temps additionnel.
Donc après, ne nous enflammons pas, je dirais, après cette victoire face à Lyon. Maintenant, il est évident qu'on peut avoir le sourire et espérer, tenter plus. Mais il est vrai qu'il ne faut pas s'enflammer non plus. Et il faut rester lucide sur la situation. Ouais. Et piano piano, et rester justement dans cette idée de victoire.
Et d'ailleurs, on en parlait après le match, puisqu'après le match, on boit un coup en attendant que la foule, que ça se dégage pour pouvoir rentrer tranquille. Et puis on boit, mais c'est pas pour boire un coup.
Vous refaisiez la troisième mi-temps.
Voilà. Et c'est
pour
vrai que
expliquer à nos auditeurs.
Comprenant le, parce qu'on écoutait, on
en
a
tout
le,
bien tout honneur, bien évidemment.
On a le téléphone et on a un des copains qui est branché sur RMC tout ça, ou sur son téléphone portable. On a vu les déclarations de Paulo Fonseca qui ont été montées à l'équipe. Ils en ont fait pendant des heures.
Mauvais joueur.
Mais quand tu regardes le match, donc moi je le sais, c'est devant moi, puisque c'est virage sud. Le deuxième but, passe décisive, Pacheco, en fait, il remet le ballon dans le paquet. Et la défense lyonnaise, elle n'est pas obligée de laisser Aubameyang tout seul venir fusiller le gardien.
Ce n'est pas une erreur défensive.
Et le troisième, c'est sur une belle action. Pacheco qui décale Nonéry, qui déborde, qui centre. Mais le défenseur lyonnais, il n'est pas obligé de laisser Aubameyang, alors que lui, il vient de rentrer. Abner, le Brésilien, arrière gauche, il venait de remplacer Tagliafico 5 minutes avant. Il n'est pas obligé de se faire prendre vitesse par Aubameyang, que c'est l'autre qui se jette et qui tacle le ballon au fond.
C'est une erreur
donc
de marquage.
Donc, c'est deux énormes fautes de la défense. Beaucoup plus que le premier but, qui est une superbe frappe. Tu peux dire, mec, il n'a pas contré, mais la frappe est magnifique, pleine de lucarnes. Mais c'est vraiment deux erreurs de défense. Et quand tu mènes 2-1 au Vélodrome à 10 minutes de la fin, tu ne laisses pas un mec comme Aubameyang partir dans ton dos et venir fusiller ton gardien.
Ils avaient le match plutôt bien en main.
Ce qui, à mon avis, explique entièrement l'énervement de Paulo Fonseca. Parce qu'ils avaient le match en main. Ils n'ont pas su... Parce que c'est deux fautes de marquage énormes.
Et c'est vrai que sur les deux dernières journées, cette équipe lyonnaise, elle a encaissé 6 buts. Trois buts à la Méno face à Strasbourg dimanche dernier et 3 buts à nouveau dimanche soir sur la pelouse du Vélodrome face à l'OM.
Et pour avoir vu les deux matchs, puisque j'avais regardé le match sur les Ligue 1 Plus, Strasbourg-Lyon, ils peuvent en prendre chaque fois 2 de plus. Parce que l'OM, tu as eu des occasions. Le gardien a fait des beaux arrêts, tu as bandagé des ballons, mais tu peux en mettre un ou deux de plus. Ça ne veut pas dire que tu dois les écraser, mais ça veut dire que tu as des occasions. Et Strasbourg avait dominé, avait eu des occasions. Donc leur défense est quand même problématique.
Oui, il n'a pas trop mis l'accent dans ses commentaires, justement. Sur ses problèmes défensifs. Voilà. Il a plus à fuir sur les problèmes d'arbitrage ou de relations
avec
les équipes adverses. Ouais.
Moi, je pense qu'il a les boules, parler français, parce qu'à 1-0, ils auraient pu appuyer, essayer de mettre le second, ils ne l'ont pas fait. Quand ils sont revenus à 2-1, ils devaient tenir 20 minutes. Alors, c'est dur, oui. Mais voilà, tu dois tenir et tu fais deux énormes erreurs défensives qui te coûtent deux buts. Quoi. Parce que le dernier but, il est magnifique, mais il y a Pekchao, il y a Abdelli qui lance Pekchao, Pekchao crochette, il lance un Maneri crochette, il centre. Et il y a Aubameyang qui passe devant le défenseur Abner et qui met la balle au fond. À aucun moment, tu n'interceptes, tu es bouffé, quoi. Et donc, à un moment donné, je comprends qu'il soit énervé parce que je pense que ce n'est pas exactement ce qu'il travaille à l'entraînement, quoi, au niveau de la défense.
Il faut rendre à César ce qui lui appartient, l'action de Pekchao, en l'occurrence, est fabuleuse. Ouais. Après, l'action de jeu qu'il y a eu sur le deuxième but de... Aubameyang, c'est l'action de jeu en elle-même qui est très belle.
Ah
même
oui,
s'il y a une erreur derrière du défenseur lyonnais qui venait de rentrer.
Ils ont été pris, comme nous, on a été pris sur les deux buts qu'on prend. Hein.
Ouais.
Parce qu'on te dit, le second, Emerson, il perd un ballon. Il essaie de relancer proprement, il se fait contrer. Le premier, il tente de dégager, mais moi, c'est cool. On part d'un côté, on va à gauche, et on met au mec, il est sur la ligne de touche. Qu'est-ce qu'il peut faire si ce n'est un grand coup de botte loin devant? Il se fait contrer, et poum, il y a but. Mmh. Voilà. C'est sa faute, oui, mais c'est pas sa faute non plus. Ça t'empêchait pas de fermer ton axe de défense. Mmh. Où Tolisso, il arrive à lancer, il est tout seul, il n'y a personne.
Ils ont lâché le match.
C'est ma foi.
Voilà, il nous reste 4 minutes avant de terminer cette émission. Juste avant de refermer la parenthèse sur ce match, je voulais juste évoquer la prochaine journée avec ce déplacement à Toulouse après la Coupe de France, voilà, ce déplacement au Stadium.
Que d'enchaînement, oui.
Qu'est-ce que ça vous inspire, ce match-là? Il va falloir confirmer après cette belle victoire face à Lyon.
Justement, il faudra déjà le premier match face à Toulouse se joue à domicile demain, donc, parce que nous sommes mardi, donc ça va très très vite. Et la prochaine journée de championnat, évidemment, samedi, pour la 25e journée, là, il faudra... faire véritablement la différence, quoi. Le 7,
samedi à 21h05, ce match au Stadium.
Évidemment que ce match-là, est-ce qu'il va servir de Coupe de France, justement, d'exercice d'une victoire, évidemment, avant le déplacement à Toulouse, pour le championnat.
Bon, après, on sait que les matchs de Coupe, on ne les aborde pas de la même façon que les matchs de championnat.
Ça,
Demain, ça peut éventuellement aller au tir au but, avec une séance de... une prolongation. Donc, si on n'arrive pas à faire la différence à l'issue du temps réglementaire...
En général, c'est jamais très bien de se rencontrer comme ça deux fois de fil. Surtout s'il y a un peu des accrochages ou des incidents dans le match de coupe.
Que nous ne souhaitons pas, évidemment.
On sait qu'un match de coupe, il y a un vainqueur, un qualifié, un éliminé. Hein, donc c'est compliqué. Parce qu'après, trois jours après, tu te retrouves, tu vas avoir des comptes qui se règlent. Mais donc c'est pas forcément très bon. Évidemment que la priorité de l'OM, ce sera le match de coupe de mercredi.
Déjà, prenant les matchs.
Après, cette équipe de Toulouse, elle reste sur un faux pas sur
Rennes,
la pelouse du Razon Park face à Rennes samedi après-midi.
Oui. Mais donc, ils ne perdent que 1-0. C'est quand même une équipe de haut de tableau.
Oui, Rennes. Mais ils ont perdu.
Ça reste une défaite, Patrick.
Oui, ça reste une défaite. Mais enfin, c'est une équipe compliquée à jouer, Toulouse. C'est costaud, c'est combatif. Le match, il n'est pas gagné. De toute façon, la coupe, moi, j'entends certains commentaires. Tu auras un match, effectivement, Lyon-Lens, mais attention au vainqueur. Et tu as Strasbourg qui reçoit ce soir
le Stade
Reims,
qui
devrait logiquement se qualifier, sans compter Lorient-Nice. Ou si tu te tires Lorient ou Nice chez eux... C'est pas
un cas de qualification,
c'est pas un cadeau.
Il n'y aura pas de cadeau, évidemment.
Ah non.
Et d'ailleurs, on connaîtra le tirage au sort pour les demi-finales ce soir.
Oui.
L'anticipation avant le match de
voilà.
demain.
Oui, oui, mais
donc, c'est à charge de faire le boulot pour nos Olympiens ouais, et ouais. battre cette équipe de Toulouse demain
oui,
soir.
Oui, parce qu'attention que quand tu arrives en quart de finale, en demi-finale, il n'y a pas de cadeau.
Ah ben non.
Sauf si tu as la chance d'avoir une petite cinquième division qui est là et que c'est courageux, ça se bat, mais quand même. Mais que ce soit le vainqueur de Lyon-Lens, que ce soit Strasbourg, que ce soit Lyon ou Nice, Lorient ou Nice, ça ne sera pas des cadeaux.
Ben, on voit ce qui peut justement nous attendre.
Voilà,
commençons par gagner demain.
Mais commençons par gagner et faisons match par match.
Ouais.
Gagnons demain contre Toulouse en coupe. Mmh. Après, samedi, on ira chez eux.
Ouais.
C'est pas facile, même si on sait que Toulouse, on joue souvent devant beaucoup de supporters.
Oui.
Parce que
oui, il faut s'attendre à voir énormément de supporters marseillais dans les tribunes, les travées du stadium.
Ouais, ouais. Voilà, oui, ouais, comme d'habitude. Mais ça ne sera pas un match facile parce que eux, c'est une équipe milieu de tableau. C'est costaud, Toulouse.
Voilà, au-delà de leur statut et de leur classement, hein, un match de coupe n'est jamais facile.
Ah oui, ouais, voilà.
Voilà, ben on va se quitter sur ces paroles, sur le match de Toulouse en championnat. Mmh. Voilà, on dit au revoir à tous nos auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine pour évoquer cette double confrontation face au Toulouse Football Club. Voilà,
oui.
On vous souhaite une bonne fin d'après-midi sur les antennes de Fréquence Mitre. À la semaine prochaine.
À bientôt.
Allez, au revoir
merci.
À tous.